Vous écoutez On lit pour vous.
Un regard nouveau sur des crimes du passé. Un texte de Messa Ferrat paru le 1er juin 2026 dans la presse. Des étudiants en criminologie se sont plongés dans le passé en prêtant main-forte à l'unité des meurtres non résolus le temps d'un stage au service de police de la ville de Montréal, SPVM. Camille Corriveau-Vaillancourt, Eva Bonne-Longobardi, Léna Chabot, Cécile Bavouzet, Maxime Asny et Laurie Cossette ont passé 2 mois à examiner les preuves de centaines de « cold cases » lors de la dernière session de leur baccalauréat. Un stage qui ne se résumait pas à faire des photocopies et à commander du café. Ils étaient au cœur des cas d'homicide non résolus. Ces dossiers ont besoin d'être recensés et vus d'un regard nouveau, résume la commandante Mélanie Dupont, chef de la section des crimes majeurs au SPVM. Il existe environ 800 dossiers de meurtres non résolus au sein du corps policier. Pas question de les laisser prendre la poussière. Le but des étudiants, les revisiter pour mieux cibler et orienter les efforts d'enquête. Est-ce qu'un témoin peut être interrogé de nouveau 10 ans plus tard? Est-ce que de nouvelles informations ont fait surface? Une nouvelle technologie permettrait-elle de faire avancer une enquête d'il y a 30 ans? L'idée, c'est de développer la relève. Ils apportent un regard neuf avec des études qui sont complémentaires, avance la commandante. Il ne s'agit pas de remplacer le travail des enquêteurs. Une police moderne se doit d'ouvrir ses horizons et d'éviter le travail en silo, rappelle Mélanie Dupont. On a quand même une image du milieu policier comme étant fermé, mais on nous a vraiment bien accueillis. Ça donne envie de travailler dans ce milieu, se réjouit Léna Chabot. Ça a été gagnant pour tout le monde, ajoute la commandante Dupont. Ils ont eu accès à tout. Ils ont même fait l'objet d'une enquête avant d'intégrer l'unité. Ils ont prononcé un serment de discrétion puisqu'ils consultaient des documents ultra-confidentiels. Catapulté dans une autre époque. Comment une étudiante dans la jeune vingtaine se sent-elle à fouiller dans le passé? C'était intéressant de faire concrètement ce pourquoi on est formé. On a vraiment vécu les enquêtes. C'était impressionnant de voir comment on était reconnu dans l'unité, raconte Cécile Bavouzet. Les stagiaires, qui en sont à leur 3e année de baccalauréat, ont découvert par la bande de mystérieux artefacts, comme des cassettes et des téléavertisseurs, pagettes. Il y a des moments où on a dû demander aux enquêteurs ce qu'était tel objet, explique Eva Bonne-Longobardi. On a souvent l'image classique du cold case des années 1980, laissé dans le bas d'une pile sur un bureau dans le fond d'une pièce. Mais aucune de ces enquêtes ne tombe dans l'oubli. Certains dossiers sont même plus récents. Le terme cold case, on emploie aussi en français les termes affaires dormantes ou affaires gelées, désigne simplement les enquêtes pour lesquelles toutes les pistes ont été épuisées. Il s'agit souvent des dossiers les plus difficiles. La fréquence des homicides au début des années 1990 a surpris le groupe de criminologues en devenir. La population peut avoir l'impression que le Montréal de 2026 est plus violent que jamais. Il était commun d'avoir plus de 60 meurtres par an dans les décennies passées, comparativement à une trentaine en 2025. D'avoir ce regard des stagiaires qui ont un background différent, c'est riche, dit la commandante Dupont. En moyenne, dans le monde, les corps policiers parviennent à résoudre 2 affaires dormantes par an. Le SPVM en a résolu 8 l'année dernière, dont celui de Catherine Davio, tuée en 2008. On met beaucoup d'espoir là-dedans, confirme la commandante. Les avancées scientifiques nourrissent l'espoir de familles, de victimes qui demeurent sans réponse parfois pendant des décennies. Autre temps, autre mœurs. Ces dossiers d'enquête sont à mille lieues de ceux de 2026. Les procédures policières et judiciaires ont bien changé. Dans certains dossiers, on a une preuve qui n'est pas du tout traitée avec les normes actuelles. On voit par exemple des photos de gens qui manipulent la preuve sans leurs gants. On ne verrait jamais ça aujourd'hui, souligne la chef des crimes majeurs. Travailler avec les techniques de l'époque ajoute une couche de difficulté. Des documents sont manquants ou illisibles. Une image de caméra de surveillance de 1980 n'a rien à voir avec la preuve haute définition des dernières années, à l'ère de Snapchat et d'Instagram. On a vu beaucoup de dossiers non résolus reliés au crime organisé. Beaucoup d'hommes dans la trentaine, marginalisés dans les victimes, donc il est plus difficile d'établir leur routine, de relancer leur entourage, note Léna Chabot. Parfois, le même suspect se retrouvait dans plusieurs dossiers, ajoute-t-elle. La mise à jour de ces cas d'homicide est importante, de même que le fait de recontacter les familles concernées, soutient Maurice Robitaille, sergent détective au dossier non résolu. Ça va au-delà du taux de résolution. C'est une réussite en soi de dire qu'on ne laisse pas tomber. C'était un regard nouveau sur des crimes du passé. Un texte de Messa Ferra, paru le 1er juin 2026 dans la presse.
Ce qu'il reste de la loi sur les Indiens. Un texte d'Isabelle Picard, paru le 27 mai 2026 dans la presse. Il y a 150 ans, la loi sur les Indiens, de son premier nom l'Acte des Sauvages, était adoptée. L'objectif était clair, l'assimilation des Premières Nations. Retour sur l'impact d'une loi qui existe toujours. Si je devais faire un palmarès des trois questions qu'on me pose le plus souvent en lien avec les Autochtones, la première porterait certainement sur les taxes, la deuxième sur les droits et non pas les privilèges ou les avantages, et la troisième sur la mythique loi sur les Indiens. Or, pour comprendre nos droits en tant que Première Nation, il faut d'abord comprendre nos pertes. Cela fait 150 ans que la loi sur les Indiens existe. Je le nomme d'emblée. Cette loi, bien qu'amendée, est ségrégationniste, paternaliste et assimilationniste. La loi sur les Indiens, comme ses premières versions, l'acte pour encourager la civilisation graduelle des tribus sauvages, 1857, ou l'acte concernant la civilisation et l'émancipation des sauvages, 1859, a été adoptée pour donner suite au rapport Bagot de 1844, qui a jeté les bases des nombreuses politiques d'assimilation du Canada en devenir. Certains qualifient ce rapport d'équivalent du rapport Durham pour les Canadiens français. Vous saurez en juger. En gros, le rapport concluait que la survie des Autochtones passait par leur sédentarisation, l'abandon de leur mode de vie traditionnel et l'adoption de la culture européenne. En d'autres mots, les Indiens devaient passer de l'état de « sauvage » à celui de « civilisé ». Cette idée de « civilisé » revient constamment dans les nombreux rapports, politiques et lois se rapportant aux Premières Nations. Or, ce n'est pas parce que nous n'étions pas européens que nous n'étions pas civilisés. Je me plais à dire que si les colons n'avaient adopté qu'une chose, la façon autochtone de considérer la relation avec le territoire, nous ne serions peut-être pas dans le pétrin dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais revenons à la loi et à l'histoire. Nous étions au 19e siècle, à une époque où le gouvernement n'avait plus besoin des Autochtones ni pour le commerce, ni pour se nourrir, se guérir, s'abriter ou se protéger. Qui plus est, l'expansion britannique, que ce soit ici ou dans les autres colonies, nécessitait toutes les ressources qui permettraient de mener à bien de dispendieuses invasions. Aussi, le gouvernement voulait libérer les territoires pour la construction de son fameux chemin de fer et l'installation des colons anglais. Or, qui se trouvait sur les territoires et empêchait toutes ces aspirations de voir le jour? Eh oui, vous l'aurez deviné. Ce n'est pas d'hier que nous sommes vus comme des empêcheurs de tourner en rond. Dans les années 1920, Duncan Campbell Scott, surintendant adjoint des affaires indiennes, l'un des architectes du système de pensionnats pour autochtones, nommera clairement le problème indien. « Je veux me débarrasser du problème indien. Notre objectif est de continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun Indien qui n'ait été absorbé par le corps politique, qu'il n'y ait plus aucune question indienne. » Tout est clair. Rien dans cette loi assimilationniste n'a été pensé pour nous protéger et voir notre bien. Nous émanciper. Autrement dit, faire en sorte que nous perdions nos droits liés à nos statuts. Là était le but réel derrière la loi sur les Indiens. Le plan n'a pas réussi. Mais au fait, que dit cette loi sur les Indiens? D'abord, dans sa version de 1876, elle faisait en sorte que les affaires indiennes devenaient une compétence exclusivement fédérale. Ensuite, elle créait le système des réserves et des conseils de bande, bouleversant ainsi tous nos systèmes de gestion des terres et de gouvernance établis. Saviez-vous que, jusqu'en 1951, un Indien n'était pas considéré comme une personne à part entière? En effet, entre 1876 et 1951, la loi sur les Indiens définissait une « personne » comme un individu autre qu'un Indien. La seule façon pour un Indien de se faire reconnaître comme une personne civilisée, encore ce mot, c'était de s'émanciper, donc de renoncer à son statut d'Indien. Ce sont des concepts qui dépassent l'entendement. Un Indien était alors considéré comme un mineur aux yeux de la loi. Bref, cette loi, qui, en passant, ne s'applique ni aux Inuits ni aux Métis, régissait tous les aspects de notre vie, de l'entretien des chemins à l'identification des Indiens par des noms européens, en passant par l'interdiction aux Premières Nations d'embaucher un avocat ou d'amasser des fonds pour se défendre, de former des organisations politiques, de voter ou de faire de hautes études, sauf en cas d'émancipation volontaire. Je pourrais continuer longtemps. Je parlais d'assimilation plus haut. Le bon mot pour décrire l'objectif ultime de cette loi serait plutôt l'asservissement. Une petite dernière. À une certaine époque, nous avions, selon cette loi, besoin d'un laissez-passer délivré par un agent des affaires indiennes pour pouvoir sortir de la réserve. Absolument aberrant. Heureusement, des amendements ont été adoptés à la loi en 1951, après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte où la défense des droits de la personne devenait un enjeu mondial. Après tout, le Canada n'était pas sans faute dans son traitement des Indiens. Et donc, en 2026, on en fait quoi de cette loi? La question est légitime, mais aussi complexe. Cette loi protège les droits et les statuts de ceux que l'on nomme encore les Indiens au sens de la loi. La réponse passe sans doute par l'autonomie gouvernementale, ce qui ne veut pas dire que le gouvernement doit se soustraire à ses responsabilités et implique nécessairement la question du territoire. Ce sera pour un autre papier. Complexe, disais-je. C'était ce qu'il reste de la loi sur les Indiens. Un texte d'Isabelle Picard, paru le 27 mai 2026 dans la presse.
La « middle sense ». La nouvelle crise de la cinquantaine? Un texte de Florence Dancause, paru le 28 mai 2026 dans La Presse. La crise du mi-temps de la vie est connue, mais avez-vous déjà entendu parler du middle sense? Le terme, de plus en plus répandu dans la culture populaire, vient jeter un nouvel éclairage sur cette période autour de la cinquantaine, qui comporte son lot de changements. La « middle sense » a été décrite comme une phase de transition, habituellement autour de 45 à 65 ans. Celle-ci est caractérisée par un désir de se redécouvrir et de retrouver un sens à la vie, en raison, notamment, des changements hormonaux qui surviennent, la ménopause chez les femmes, et l'andropause chez les hommes. On la compare à l'adolescence. La créatrice de contenu montréalaise, Roselyn Grinner, 63 ans, croit que les gens d'âge mûr sont de plus en plus visibles dans la société. « Avant, dit-elle, on nous voyait seulement comme des grands-mères. Maintenant, on voit différents modèles de personnes dans la force de l'âge. » Ceux-ci revendiquent davantage d'espace sur les réseaux sociaux, en consommant et en créant du contenu. C'est le cas de Roselyn Grinner, qui a maintenant plus de 120 000 abonnés sur TikTok et Instagram et qui a récemment été mentionnée dans la liste des créateurs de contenu québécois les plus influents de plus de 50 ans, aux côtés notamment de Véronique Cloutier et de Ricardo Larrivé. Justin Trudeau illustre bien cette middle sense. Après avoir assumé les fonctions de premier ministre du Canada, on a pu le voir s'amuser avec son amoureuse, Katy Perry, au festival Coachella en avril. Un changement de style de vie pour cet homme de 54 ans qui ne passe pas inaperçu. Une réinvention de soi. La conférencière Marie-Paul Dessin s'intéresse depuis de nombreuses années à ce milieu de la vie, parfois mouvementé. Elle y a même consacré quelques livres. On s'est dévoué au travail, on a fondé une famille, on a tout mis de côté pour les autres et on a parfois porté des masques pour plaire, explique-t-elle. Vers 45 ans, on commence à réfléchir à ce qu'on veut faire du restant de notre vie. Et on veut délaisser des choses qui nous importent moins. Ce moment de réflexion coïncide souvent avec le départ des enfants du nid familial. En plus de voir notre rôle de parent transformé, notre emploi du temps est souvent allégé. La coach et autrice Mylène Grégoire voit bien des clients passer à travers cette phase. Plusieurs me disent qu'ils sont perdus, qu'ils ne savent plus exactement qui ils sont, relate-t-elle. Elle encourage les gens à trouver une passion ou des activités de loisirs, ou même à renouer avec elle. Il n'est jamais trop tard pour essayer quelque chose, même si notre cerveau est un peu plus lent, dit-elle en riant. Elle sent également qu'il y a un besoin accru de connecter avec les autres et de s'impliquer dans sa communauté. Le désir de changement est particulièrement criant sur le plan de la carrière. Les gens se disent « J'ai tout un bagage derrière moi. J'ai toute une expérience. Pourquoi je ne fais pas autre chose ?» souligne Marie-Paul Dessin. Mylène Grégoire le confirme. La plupart des personnes de plus de 50 ans ne veulent plus s'épuiser au travail et encore moins accomplir des tâches qui ne les comblent plus. Celles qui ont une sécurité financière osent parfois réaménager leur temps de travail pour avoir un meilleur équilibre de vie. Certaines devancent la retraite. D'autres se tournent plutôt vers des rôles de mentorat. C'est le moment où on pense à son legs et à l'héritage qu'on laisse aux autres, décrit la coach. Quelques-uns changent littéralement de vocation. Roselyn Grinner est du nombre. Elle s'est tournée vers la création de contenu après avoir été licenciée d'un haut poste en marketing. L'âgisme est toujours présent au travail, croit-elle. Mais cela l'a motivée à prouver qu'elle pouvait se réinventer. Je suis devenue créatrice de contenu, en partie pour montrer à des employeurs potentiels que je m'y connaissais sur les réseaux sociaux, souligne-t-elle. Accepter le changement. Avant de se lancer tête première dans une nouvelle direction, Marie-Paule Dessin suggère de faire un bilan réaliste de sa vie et de ses aspirations. Il faut faire attention. Certains rêves de jeunesse ne sont plus d'actualité, note-t-elle. Or, on peut s'appuyer sur ses nombreuses expériences et connaissances. Les changements corporels font aussi partie du processus naturel du mi-temps de la vie. Roslyn Grinner se fait un devoir de déstigmatiser les différents symptômes liés à la ménopause sur ses plateformes. Des conversations toujours très écoutées par ses abonnés, dit-elle. Je veux aider les femmes à la post-ménopause à prendre confiance en elles, à oser s'habiller comme elles le veulent, avec un corps qui a changé. Le niveau d'énergie n'est peut-être plus le même qu'à 30 ans, mais, en général, on vit plus longtemps et en meilleure santé qu'avant. Il reste donc beaucoup de temps pour rebondir et recommencer, croit Marie-Paule Dessin. Selon la coach Mylène Grégoire, la middle sense est surtout synonyme de plaisir. Les gens veulent faire ce qui leur plaît en cohérence avec leurs valeurs profondes, indique-t-elle. C'était la middle sense, la nouvelle crise de la cinquantaine? Un texte de Florence Dancause, paru le 28 mai 2026 dans La Presse.
Conquête spatiale. La surprise d'Artemis, la Lune frappée par des météorites en temps réel. En sous-titre, un spectacle rarissime qui attise la curiosité des scientifiques. Un texte signé Charlotte Cossis de l'Agence France-Presse, publié dans Le Devoir du 9 avril 2026. Lors de leur retour autour de la Lune, les astronautes d'Artemis II de la NASA ont pu voir des météorites s'écraser sur la surface lunaire, un spectacle rarissime qui attise la curiosité des scientifiques. Citation : Il s'agissait sans aucun doute de flashs d'impact sur la Lune, et Jeremy Hansen vient d'en voir un autre. Fin de citation a ainsi décrit lundi le commandant Reid Wiseman en plein survol de l'astre, le premier réalisé par des hommes en plus d'un demi-siècle. Stupéfiant. A répondu comme sonné la responsable scientifique de la mission, Kelsey Young, plus de 400 000 km plus bas. Citation : Je ne pense pas que je m'attendais à ce que l'équipage envoie lors de cette mission, donc vous avez probablement vu la surprise et le choc sur mon visage. Fin de citation, a-t-elle confié le lendemain lors d'une conférence de presse. Dans le centre de la NASA de Houston, la description en direct de ces flashs de lumière causés par des impacts a été accueillie par des cris de joie de scientifiques, a-t-elle raconté. Ce phénomène n'avait en effet été, citation, que rarement observé, a souligné lundi Jenny Gibbons, astronaute de réserve pour la mission Artemis II auprès de l'Agence France-Presse. Le fait qu'ils en aient vu 4 ou 5 est tout simplement remarquable. A-t-elle ajouté, fin de citation. Aucun doute, entre guillemets. Face à l'intérêt suscité par ces observations, les équipes de la NASA ont questionné à nouveau mardi les astronautes sur ce qu'ils avaient vu. Citation, les éclairs étaient-ils brefs ou prolongés? Avez-vous remarqué une couleur? A ainsi demandé Kelsey Young. Il s'agissait d'un point de lumière minuscule, a répondu le Canadien Jeremy Hansen avant d'ajouter « Je soupçonne qu'il y en avait beaucoup plus. Fin de citation. Autre citation. Je dirais qu'il durait une milliseconde, comme la vitesse à laquelle un obturateur d'appareil photo peut s'ouvrir et se fermer. Fin de citation indiquée pour sa part, Rita Wiseman, évoquant une apparence, citation, de blanc à blanc bleuté. Pour moi, il n'y avait aucun doute sur le fait que nous voyions un impact et nous le voyons tous, a-t-il affirmé. Fin de citation. Selon le décompte de la NASA fait mardi, l'équipage aurait signalé au total 6 impacts de météorites. Les équipes au sol cherchent à présent à corréler ces observations avec les données d'un satellite orbitant autour de la Lune, a fait savoir Mme Young, précisant par ailleurs que la majorité de ces observations ont été faites durant l'éclipse solaire à laquelle a assisté l'équipage. Préoccupation réelle, entre guillemets. Citation, « Je suis personnellement surpris qu'ils en aient vu autant. » Fin de citation, confie à l'agence France-Presse Bruce Betts, scientifique en chef de la Planetary Society. Mais, guillemets, c'est très intéressant, ajoute-t-il, car ces descriptions d'impact lumineux pourraient nous permettre de nous faire une meilleure idée de la fréquence de ces impacts. Et aussi de leur taille. Citation, pour que cela puisse produire un éclair visible par des astronautes à 6000 km de distance, ellipse, ce n'est certainement pas un grain de poussière, mais pas non plus un gros rocher. Fin de citation. Ces observations soulèvent donc de nombreuses questions qui illustrent le besoin, citation, d'une surveillance plus étroite à l'avenir et surtout avant la mise en place d'une base lunaire. Fin de citation, indique à l'agence France-Presse Peter Schultz, professeur émérite en géologie planétaire à la Brown University. Alors que les États-Unis ambitionnent, par leur programme Artemis, d'établir dans les années à venir une présence humaine durable sur la Lune, avec la construction d'une base au sol, la question des roches tombant du ciel va se poser. Si, sur la Terre, l'atmosphère fait en sorte que tout ce qui est petit brûle avant de toucher le sol, ce n'est pas le cas sur la Lune, explique Bruce Betts. Sur la Lune comme ailleurs dans l'espace, la question des météorites est donc, citation, une préoccupation réelle et constituera un défi à relever. Fin de citation. Et fin de ce texte de l'Agence France-Presse, signé Charlotte Cosette, titré « La surprise d'Artémis, la Lune frappée par des météorites en temps réel ». Texte publié dans Le Devoir du 9 avril 2026.